15e partie, nuit. Chapitre 46. Je suis assise dans ma chambre, à la fenêtre. J'attends. J'ai sur les genoux une poignée d'étoiles chiffonnées. Cela pourrait être la dernière fois que j'ai à attendre. Mais je ne sais pas ce que j'attends.
Qu'est-ce que vous attendez ?
Nous disait-on.
Cela voulait dire, dépêchez-vous.
Cela n'appelait pas de réponse. Pourquoi attendez-vous est une autre question, et je n'ai pas de réponse à celle-là non plus. Pourtant, ce n'est pas attendre, pas tout à fait. C'est plutôt comme une forme de suspension, sans suspens. Enfin, il n'y a plus de temps. Je suis en disgrâce, qui est le contraire de grâce. Je devrais m'en sentir plus mal. Mais je me sens sereine, en paix, habitée d'indifférence. Ne laissez pas les salopards vous tyranniser. Je me répète cette phrase, mais elle n'a plus de sens. On pourrait aussi bien dire « Ne laissez pas l'air exister » ou « N'existez pas ». Je pense qu'on pourrait dire cela. Il n'y a personne dans le jardin. Je me demande s'il va pleuvoir. Dehors, la lumière baisse. Elle est déjà rougeâtre. Bientôt il fera nuit. Maintenant il fait nuit. Cela n'a pas pris longtemps. Il y a un certain nombre de choses que je pourrais faire. Je pourrais mettre le feu à la maison, par exemple. Je pourrais entasser une partie de mes vêtements et des draps et craquer mon unique allumette cachée. Si cela ne prenait pas, tant pis. Mais si cela prenait, il y aurait au moins un événement, un signe particulier pour marquer ma sortie. Quelques flammes aisément étouffées. Entre-temps, je pourrais engendrer des nuages de fumée et mourir par asphyxie. Je pourrais déchirer mes draps en bandelettes et les tordre pour en faire une espèce de corde, en attacher un bout au pied de mon lit et essayer de briser la vitre qui est en verre incassable. Je pourrais aller trouver le commandant, me jeter à terre, la chevelure en désordre, comme on dit, lui étreindre les genoux, avouer, sangloter, implorer. Je pourrais dire « Nolite te salopardes exterminorum ». Pas une prière. J'imagine ses chaussures, noires, bien cirées, impénétrables, gardant leur camp à soi. Ou alors je pourrais me passer un drap autour du cou, m'accrocher dans la penderie, jeter mon poids en avant, m'étrangler une fois pour toutes. Je pourrais me cacher derrière la porte, attendre qu'elle vienne, boitille le long du couloir, porteuse de ma sentence, pénitence, punition. Lui sauter dessus, la renverser par terre, lui lancer un coup de pied rapide et précis dans la tête, pour la délivrer de ses malheurs. Et de moi avec, pour la délivrer de nos malheurs. Cela gagnerait du temps. Je pourrais descendre l'escalier d'un pas tranquille, sortir par la porte de devant, m'engager dans la rue, en essayant d'avoir l'air de savoir où je vais, pour voir jusqu'où je pourrais aller. Le rouge est tellement voyant. Je pourrais me rendre dans la chambre de Nick, au-dessus du garage, comme nous l'avons déjà fait. Je pourrais me demander s'il me laisserait entrer, m'offrirait un abri. Maintenant que le besoin est réel. Je considère ces possibilités nonchalamment. Chacune semble avoir la même taille que toutes les autres. Aucune ne semble préférable. La fatigue est là dans mon corps, mes jambes, mes bras. C'est cela qui vous coule à la fin. La foi n'est qu'un mot brodé. Je regarde le crépuscule. Dehors, et je pense à l'hiver, à la neige qui tombe doucement, sans effort, et recouvre tout de cristal tendre, à la brume, couleur de lune, qui précède la pluie, estompe les contours, efface les couleurs. Mourir de froid n'est pas douloureux, dit-on. Le premier frisson passé, on se couche dans la neige comme un ange fabriqué par des enfants. et on s'endort. Derrière moi, je la sens présente, mon ancêtre, mon double, qui tournoie suspendu au lustre, dans son costume d'étoiles et de plumes, oiseau arrêté dans son vol, femme transformée en ange, qui attend d'être découverte. Par moi, cette fois. Comment ai-je pu croire que j'étais seule ici? Nous avons toujours été deux. Finissons-en, dit-elle. Je suis lasse de ce mélodrame. J'en ai assez de rester muette. Tu ne peux protéger personne. Ta vie n'a de valeur pour personne. Je la veux terminer. Au moment où je me lève, j'entends le fourgon noir. Je l'entends avant de le voir, fondu dans le crépuscule. Il émerge de son propre bruit, comme une solidification. Un caillot de la nuit. J'arrive tout juste à discerner l'œil blanc, les deux ailes. La peinture doit être phosphorescente. Deux hommes se détachent de la silhouette du fourgon, gravissent le perron, sonnent. J'entends le glas de la sonnette. Ding, dong, comme le fantôme d'une colporteuse de phare dans le vestibule. C'est donc le pire qui s'annonce. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû prendre les choses en main quand je le pouvais encore. J'aurais dû voler un couteau à la cuisine, dénicher les ciseaux de couture. Il y avait les cisailles de jardin, les aiguilles à tricoter. Le monde est plein d'armes quand on en cherche. J'aurais dû faire attention. Mais il est trop tard pour penser à cela maintenant. Ils ont déjà les pieds sur le tapis vieux rose de l'escalier. Un pas lourd et assourdi. J'ai les tempes qui battent. J'ai le dos tourné à la fenêtre. J'attends un étranger, mais c'est Nick qui ouvre ma porte, allume la lumière. Je n'y comprends rien. À moins qu'il ne soit des leurs. Cette possibilité a toujours existé. Nick, l'œil privé. Le sale travail est fait par de sales individus. Je pense. Ordure. J'ouvre la bouche pour le dire. Mais il s'approche, tout près de moi, chuchote. Tout va bien. C'est Mayday. Va avec eux. Il m'appelle par mon vrai nom. Pourquoi cela devrait-il avoir un sens? J'interroge. Avec eux, je vois les deux hommes plantés derrière lui. Leur crâne se détache sous la lumière du plafonnier. Tu es fou. Mon soupçon plane au-dessus de lui, ange noir qui me met en garde. Je peux presque le voir. Pourquoi ne serait-il pas au courant pour Mayday? Tous les anges doivent l'être. Ils l'ont arraché assez souvent, de suffisamment de corps, de bouches, à force de pression, torsion, broiement. « Fais-moi confiance, » dit-il. Ce qui en soi n'a jamais été un talisman, ne contient aucune garantie. Mais je m'y agrippe à cette offre. C'est tout ce qu'il me reste. L'un devant, l'autre derrière, il m'escorte dans l'escalier. L'allure est mesurée, les lumières sont allumées. Malgré la peur, comme ceci est ordinaire. D'ici, je vois la pendule. Elle n'indique pas d'heure particulière. Nick n'est plus avec nous. Il se peut qu'il ait pris l'escalier de service, préférant ne pas être vu. Serena Joy se tient dans le vestibule, les yeux levés sur nous, incrédule. Le commandant est derrière elle. La porte du salon est ouverte. Il a les cheveux très gris. Il a l'air inquiet et désemparé, mais déjà, en train de s'éloigner de moi, de prendre ses distances. Quoique je puisse être d'autre pour lui, je suis aussi, actuellement, une catastrophe. Nul doute qu'il se soit querellé à mon propos. Nul doute qu'elle lui ait fait passer un mauvais quart d'heure. Je suis encore capable d'avoir pitié de lui. Moira a raison. Je suis une nouille. « Qu'a-t-elle fait ? »
demande Serena Joy. Ce n'est donc pas elle qui les a appelés. Ce qu'elle me réservait devait être de nature plus privée.
Nous ne pouvons pas le dire, madame, dit celui qui me précède. Je regrette.
Il faut que je voie votre autorisation,
dit le commandant.
Vous avez un mandat d'arrêt.
Maintenant, je pourrais hurler, m'accrocher à la rampe, abandonner toute dignité. Je pourrais les arrêter, au moins quelques instants. Si ce sont des vrais, ils resteront. Autrement, ils se sauveront, sans moi.
Nous n'en avons pas besoin, monsieur, mais tout est en règle, dit encore le premier. Trahison de secret d'État.
Le commandant porte la main à sa tête. Qu'ai-je pu dire et à qui, et lequel de ses ennemis a pu le découvrir? Peut-être sera-t-il considéré désormais comme un danger pour la sécurité. Je suis au-dessus de lui. Je le vois d'en haut. Il se recroqueville. Il y a déjà eu des purges parmi eux. Il y en aura encore. Serena Joy devient blême.
Salope !
Dit-elle.
Après tout ce qu'il a fait pour vous !
Cora et Rita se précipitent hors de la cuisine. Cora s'est mise à pleurer. J'étais son espoir. Je lui ai fait faux bond. Maintenant, elle restera à jamais sans enfant. Le fourgon attend. Dans l'allée du garage, ses doubles portes sont grandes ouvertes. À eux deux, un de chaque côté maintenant, ils me prennent par les coudes pour m'aider à monter. Que ceci soit ma fin ou un nouveau commencement, je n'ai aucun moyen de le savoir. Je me suis abandonnée aux mains d'étrangers parce que je ne peux pas faire autrement. Et donc, je me hisse vers l'obscurité qui m'attend à l'intérieur, ou peut-être la lumière.